RFI, on passe à l'heure d'hiver, il est 5h30, à Paris 4h30 en temps universel. Votre édition Afrique présentée par Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Juliette, bonjour à tous. C'est cette question à la une ce matin. Où en est le cessez-le-feu dans l'Est congolais? Ces derniers jours, les rebelles M23 sont de nouveau à l'offensive dans la province du Nord Kivu. Mercredi, ils ont pris le contrôle de la ville de Kalembe. Hier, ils se sont emparés de plusieurs villages dans le territoire de Walikale. Précision dans un instant avec notre correspondant à Goma. Dans ce journal également, le Tchad, l'observation des associations sur le processus électoral déplore le faible nombre de candidats en vue des élections, notamment législatives, prévues dans 2 mois. Le Mozambique est le parti au pouvoir qui appelle désormais au dialogue avec l'opposition après l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle. La Turquie qui va pouvoir se lancer dans des opérations d'exploration pétrolière au large de la Somalie. Et dans une dizaine de minutes, les sports avec Christophe Diremdian. On parlera basket, les qualifications de la balle et football. Le Nigeria obtient 3 points sur tapis vert après sa triste expérience en Libye dans le cadre des éliminatoires de la CAN. La semaine s'achève. Comme la précédente s'était terminée dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire avec des combats dans la province du Nord Kivu, alors que les rebelles M23 se sont emparés cette semaine de la ville de Kalembe. Les affrontements se sont poursuivis hier entre le M23 et les miliciens Wazalendo, alliés de l'armée congolaise. Combats autour de plusieurs villages du territoire de Walikale. À Goma, correspondance d'Héritier Baraka.
Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba, dont les villages de Minjenje et Malemo, qui sont passés dans les mains des rebelles. Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville de Pinga. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d'hier sous une pluie battante, selon la société civile locale. Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages de Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohoa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre la ville de Pinga, base importante de l'armée, et ses alliés les RDCR, où se trouve un aérodrome. Au moins une dizaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par les M23. Des sources proches de l'AFC M23 disent ne pas être liés à ce cessez-le-feu n'ayant pas été associé avant l'annonce de cette décision. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La République démocratique du Congo également, où le président Félix Tshisekedi vient de passer plusieurs jours à Kisangani, la grande ville du Nord, capitale de la province de la Tshopo, où le chef de l'État notamment a annoncé son intention de faire modifier la constitution. Il y a aussi présidé un conseil des ministres et rendu hommage aux victimes de la guerre des 6 jours en l'an 2000. Et ultime étape hier, l'inauguration du nouvel aéroport de la ville, rénové et désormais aux normes internationales. Reportage de Joseph Kaungo.
Devant le terminal de l'aéroport international de Kisangani, sous les acclamations du public, le président Félix Tshisekedi coupe le ruban symbolique. Visite ensuite du bâtiment capable de prendre en charge plus de 300 passagers en heure de pointe. Dans son allocution lors de la cérémonie, le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, souligne tous les avantages pour la province de la Tshopo.
En inaugurant cet aéroport, nous ouvrons également la voie à de nouvelles opportunités. Nous créons des emplois. Nous facilitons l'accès au marché et nous renforçons les liens entre les différentes provinces de notre pays. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux.
Depuis la pandémie de la Covid en 2020 et suite à la trop faible fréquentation, l'aéroport de Bangoka ne recevait plus de vols internationaux. Jean Bamanissa, sénateur et ancien gouverneur dans la région, égrène les possibilités pour pallier au manque de passagers à Kisangani.
Dans notre plan, il était question que nous puissions transformer par exemple l'or ici même à l'aéroport pour pouvoir exporter directement à partir d'ici. Et aussi, cet aéroport devrait servir aussi de base logistique parce que il est possible d'avoir un atelier technique pour qu'on puisse faire les entretiens des avions ici même, le centre de pilotage aussi.
En RDC, sur 252 aéroports et aérodromes, 38 sont opérationnels et seulement 20 reçoivent régulièrement des vols. Joseph Kaungo, Kisangani, RFI.
RFI, 5h34 à N'Djamena. Combien y aura-t-il de candidats au Tchad le 29 décembre prochain, jour d'élections législatives et locales. Pas assez, si l'on en croit l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad, à quelques jours de la fin de la période de dépôt des candidatures. Pour ce collectif d'ONG, la raison est à chercher dans des cautions au montant trop élevé, 3 600 000 francs CFA par exemple, pour une liste de candidats aux élections municipales. Et l'OAPET demande au gouvernement de changer les choses en urgence. Ouzibé Gombo-Bray est le rapporteur général de l'organisation.
Chaque jour, il y a de moins en moins des regroupements des partis politiques qui viennent déposer les candidatures. Quand vous prenez des grandes provinces comme le Wadaï, le Chéri-Baguirmi, le Kanem, il n'y a pas encore des dossiers déjà déposés. Nous avons essayé de contacter un certain nombre de chefs des partis politiques. Ceux-ci nous disent clairement que la caution, elle est tellement exorbitante. Il y a à côté les frais pour la campagne. Vous savez qu'en cette période, le pays vit une crise socio-économique terrible. On vient de sortir d'une saison pluvieuse qui est marquée par les inondations. Il y a la crise alimentaire à côté. Donc du coup, les partis sont vraiment confrontés à ce problème-là. Même ici à N'Djamena, aucun dossier n'a encore été déposé.
Ouzibé Gombo-Bray, rapporteur général de l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad, au micro d'Olivier Monodji. Des précisions au Gabon en vue du référendum constitutionnel prévu le 16 novembre prochain. Le ministre de l'Intérieur indique que la campagne se déroulera du 7 au 15 novembre et il annonce surtout que les observateurs internationaux seront autorisés, ce qui n'avait pas été le cas lors des élections générales organisées par le précédent pouvoir à Libreville. Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane appelle à une nouvelle journée de manifestation demain, lundi. Avec son parti Podemos, il conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle tels que donnés jeudi par la commission électorale et la victoire de Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir. Un Frelimo, un parti qui appelle désormais au dialogue. Ludmila Magoun, la porte-parole du parti, affirme que le Frelimo est préoccupé par les dégâts laissés par les manifestations violemment réprimées au moment de l'annonce des résultats.
Notre candidat a déclaré qu'il est ouvert au dialogue, mais il est essentiel de rappeler que le processus de validation des résultats est toujours en cours. Ces résultats doivent d'abord être soumis au Conseil constitutionnel pour une décision finale. Lors des manifestations, nous avons constaté des pillages et des destructions de biens publics et privés, une situation qui, selon nous, inquiète l'ensemble des Mozambicains. Cela a même poussé certains à rester chez eux pour trouver un peu de tranquillité et à éviter de sortir.
Ludmila Magoun, la porte-parole du Frelimo, le parti au pouvoir au Mozambique. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Togo avec une nouvelle attaque signalée dans le nord du pays. Incursion dans la nuit de vendredi à samedi, au moins 8 civils ont été tués. Une attaque qui n'a pas été revendiquée mais qui est la deuxième en l'espace d'une semaine pour le village de Malbongou dans la préfecture du Pendjal Ouest. Le Ghana et Accra qui d'une part dément toute forme de collusion avec les groupes djihadistes, communiqué hier du ministre de la Sécurité nationale. Cette semaine, un article de l'agence Reuters relayait des accusations selon lesquelles les autorités ghanéennes fermeraient les yeux sur la présence et sur les activités de membres de groupes armés venus du Burkina Faso voisin. Le Ghana, qui d'autre part voit sa ministre des Affaires étrangères prendre la tête du Commonwealth, l'organisation qui regroupe les anciennes colonies britanniques notamment. Shirley Botchway, nouvelle secrétaire générale donc du Commonwealth, choisie pour un mandat de 4 ans, un mandat qu'elle entend consacrer notamment à la question des réparations de la traite d'esclaves. La Turquie va pouvoir débuter sa mission d'exploration de pétrole et de gaz en Somalie, précisément dans les eaux territoriales somaliennes. Le navire de recherche turc est arrivé avant-hier au port de Mogadiscio en vertu d'un accord signé au mois de mars dernier. On parle de 3 zones offshore pour une surface totale à explorer de 15 000 km². Florence Maurice.
L'arrivée du navire à Mogadiscio a été célébrée en grande pompe en présence du président somalien et du ministre turc de l'énergie. C'est un jour historique, a estimé le ministre somalien de la Défense. La mission de prospection devrait durer 7 mois. Le navire de recherche collectera des données sismiques afin de permettre à Ankara d'identifier de potentiels sites de forage. Les réserves en pétrole et en gaz dans ces eaux sont estimées à au moins 30 milliards de barils. Ankara cherche ainsi à diversifier ses sources d'approvisionnement approvisionnement en hydrocarbures pour moins dépendre de la Russie. En contrepartie, elle s'est engagée à protéger les côtes somaliennes. Plusieurs bâtiments de la marine turque seront d'ailleurs déployés pendant la mission pour sécuriser le travail de recherche. Mais cette présence militaire turque pourrait raviver des tensions, car une partie des eaux territoriales qui vont être explorées sont situées au large de la République autoproclamée du Somaliland. Or, en juillet dernier, son gouvernement avait prévenu que le déploiement de l'armée turque dans ces eaux risquerait, je cite, de compromettre la stabilité régionale. Dans cette zone maritime convoitée, surtout depuis que l'Éthiopie s'est rapprochée du Somaliland.
Florence Maurice. Et puis un réalisateur camerounais à l'honneur hier à Yaoundé, Ena Scott, lauréat de 4 récompenses, dont le prix spécial de l'Association africaine des critiques d'art au festival de cinéma Écran Noir. Et parmi les moments attendus de cette édition, il y avait aussi la remise des prix 10 jours pour un film, prix destiné spécialement aux jeunes de moins de 30 ans et organisé avec l'Institut culturel allemand, nous explique Basek Bakobio, le délégué général du festival.
Il y a 3 premiers qui sont retenus. Après une formation, réalise le premier film. À l'issue de cela, il y a un vainqueur qui est déclaré. Le vainqueur bénéficie d'un peu d'argent, mais surtout d'un mois de séjour professionnel en Allemagne. Et puis cette année, nous avons apporté une innovation. C'est que les techniciens même qui sont derrière sont tous des jeunes de moins de 30 ans, de manière à ce qu'on ne détecte pas que des réalisateurs, mais aussi des techniciens.
Basek Bakobio, délégué général du festival Écran Noir, au micro de notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Et à Yaoundé comme ici à Paris, il est 5h41. À suivre dans Afrique Matin, reportage au Tchad, N'Djamena. On s'intéresse à l'alcool frelaté, bien sûr interdit, mais toujours souvent consommé par bon nombre de jeunes N'Djaménois. Et puis nos rendez-vous du dimanche.